des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de cette émission des livres plein les oreilles. Et autour de moi, j'en suis tellement contente, j'ai trois personnes en studio encore aujourd'hui. Non, parfois c'est pas le cas, il y a des gens qui se déplacent pas, ils ont de la fièvre, ils sont pas bien, ils sont grognons, je le sais-tu. Il y en a d'autres parfois, ben ils ont pas de char, ou en tout cas il y a toujours d'excellentes raisons, mais là tout le monde est là. Alors autour de la table aujourd'hui, Anne Jarry, bonjour Anne.
Bonjour Clotilde.
On commencera avec vous et puis tout de suite après un auteur que j'affectionne particulièrement et j'avais très très hâte d'avoir ce grand voyageur à ma table parce que vous n'êtes pas toujours là quand même, non, monsieur Sanson.
Il faut mettre le grappin dessus quand je suis là. Ouais.
Ah, c'est ça. Alors Pierre Sanson, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et puis en seconde partie, nous allons recevoir Nicole Châtelain qui est bénévole et qui est une invitée régulière à cette émission-là qui va venir nous parler du dernier livre de nouvelles d'Anna Gavalda. Et puis, bien sûr, il y aura des rubriques. On évoquera la mort de Régent Ducharme, histoire de vous rappeler quels sont les titres qui sont disponibles en audio adapté. Et il sera question, je vous ferai un petit clin d'œil à l'émission suivante. La semaine prochaine, on aura le droit à une émission jeunesse, littérature. Et puis, pour les jeunes et pour les adolescents. Et on finira, bien sûr, par quelques actualités, quelques nouveautés en rafale. Anne Jarry, je me tourne vers vous. C'est avec vous qu'on va donc commencer cette émission-là. Et cet auteur qu'on connaît bien pour ses polars, qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien pour ses autres livres, et c'est dommage parce qu'il n'a pas écrit que du polar, hein, le monsieur, c'est monsieur Henning Mankell. Je vous laisse nous présenter ce livre que vous avez choisi pour
Merci,
nous.
Merci, Clotilde. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation pour me joindre à vous aujourd'hui, j'étais en plein dans le livre de Henning Mankell, Sable mouvant, fragment de ma vie. Un livre qui m'a à la fois bouleversée, touchée et que j'ai partagé tout l'été avec ma copine, couchée le soir à écouter à deux le livre audio d'Henning Mankell. Et à chaque chapitre, on l'arrêtait puis on disait « Ouf, ah oui. C'était beau, hein? » On disait oui, puis souvent sans savoir quoi dire de plus, mais c'est un livre qui a été écrit, c'est autobiographique, c'est un livre qui a été écrit au moment où Mankell a appris qu'il souffrait d'un cancer très grave, et il choisit donc d'écrire plusieurs fragments de sa vie, en partant de l'enfance, aller jusque, en fait avec toutes sortes de flashbacks dans ses nombreux voyages, nombreuses prises de position sur la vie, sur ses nombreux voyages en Afrique, parce que c'est un homme qui a été impliqué de façon humanitaire dans toutes sortes de causes. Et donc, c'est très bouleversant parce que ça te fait prendre conscience de ta propre vie, ce qui est important pour toi, ce que veut dire l'espoir, ce que veut dire les petits moments, les bons et les moins bons. Et donc, bouleversant et à la fois, ça nous ramène à soi-même et c'est important pour soi.
Et je voudrais tout de suite préciser que ce livre n'est pas un livre triste du tout, mais alors du tout.
Non.
Ça se lit avec beaucoup de bonheur, hein, quand même.
Ça se lit avec bonheur, puis ça se lit en nous rappelant des choses qui comptent pour nous. Et puis, entre autres, le livre débute, ou bon, le premier chapitre peut-être un petit peu moins important, où il raconte finalement, il met un peu en scène ce qu'on va avoir tout au long du livre, où il apprend que ce n'est pas un torticolis qu'il a, mais bien un cancer, et qu'il va devoir passer à travers des traitements très graves. Mais par la suite, on le revoit revenir en arrière, sur les fragments de sa vie. Et lorsqu'il a eu l'annonce du diagnostic, il choisit d'aller à l'église en Suède, près de chez lui, où il retourne admirer un tableau qu'il avait bien aimé, mais qu'il regarde de nouveau, mais d'une façon différente. En fait, il repasse des fragments de sa vie en les revivant de façon différente, maintenant qu'il sait que le temps compte, tout en restant toujours avec cette teinte d'espoir que la vie est toujours là. Alors, ce qu'il raconte, c'est à quel point on a toujours espoir. Tant qu'on vit, tant qu'on veut vivre, mm-hmm. on a toujours espoir. Alors, tout cet espoir est présent tout au long du livre. Et donc, on reste tous et chacun avec l'espoir de vivre le plus longtemps possible, tant et aussi longtemps qu'on le souhaite. Mm-hmm. Et il raconte aussi que ce tableau qu'il est retourné voir donc à l'église dès le chapitre 2, c'est un tableau qui a été fait à l'époque où, on retourne plusieurs siècles en arrière, où la photographie n'existait pas comme aujourd'hui, et on voit la famille, une famille avec 15 enfants, mm-hmm. mais de ces 15, il y en a 6 qui sont décédés. Mmh. Et les 6 qui sont décédés, ils sont présents sur le tableau, mais ils sont toujours un peu cachés derrière ceux qui vivent. Mais ce qui est intéressant dans la façon dont Menkel le raconte, c'est que ces 6 personnages décédés tentent toujours, on les voit se tourner la tête pour essayer mmh. d'être vus derrière ceux qui sont toujours vivants. Mmh. Et donc, tout au long du livre, il nous fait réfléchir sur l'importance d'être là, mais l'importance aussi pour ceux qui ne sont plus là, l'importance qu'ils ont toujours. Et donc, Menkel a toujours cette envie d'être présent au moment où il écrit. Mais même aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, il ne l'est pas tout à fait lorsqu'on passe à travers son livre. Mmh. Et je vous dirais aussi que ce livre, on peut le lire et on peut le relire. Parce que moi, en me préparant ce matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire de ce que je me souviens? Est-ce que je vais raconter le chapitre où il y a un serveur dans un restaurant qui est avec des gens tout à fait désagréables et qui décide, après avoir tenté d'être poli plusieurs fois, qui décide de tout casser les assiettes, d'enlever son tablier et de sortir du restaurant et de profiter de la vie autrement? Alors, c'est tout plein de petites histoires comme ça.
Et vous savez, Anne, encore une fois, la magie du hasard de cette émission-là, parce que si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu le faire à ce point-là, c'est qu'il y a d'énormes points communs avec mmh. votre livre, Pierre.
Oui, c'est ce que je ressens, oui.
C'est ce que vous ressentez, hein, c'est-à-dire mmh. que, on va en parler un petit peu plus tard avec Pierre Sanson, mais le personnage principal a, pour une autre raison, par exemple, a revenir comme ça, à rechevaucher quelques souvenirs de sa vie. Ouais. Alors, c'est vraiment confondant. Et vous vouliez dire quelque chose, Pierre?
Je vais poser des questions. Je voulais pas
mais si, allez-y.
Grignoter du temps qui n'est pas imparti.
Mais, je vous en prie.
Donc, si j'ai bien compris, Menkel, c'est pas simplement anecdotique, son parcours.
Ah, non.
Là. Mais c'est pas non plus spirituel non plus. C'est plus une... comment je pourrais l'exprimer? Pas une sagesse, mais une sérénité que lui apporte son état. Il a choisi de l'aborder de façon sereine, j'imagine.
Absolument. Puis on sent qu'il veut également laisser un message. Parce qu'il revient souvent sur ce que l'histoire nous laisse, qu'on se souvient des autres siècles. Mm-hmm. Et est-ce que nous, du 20e et 21e siècle, surtout 21e et peut-être ensuite, est-ce qu'on va se souvenir du nucléaire? Qu'on a tenté d'enfouir mmh. toutes sortes de choses sous la terre. Alors, il y a aussi une position très, très forte sur ce qu'il veut qu'on se souvienne de lui et de ses positions sur nos héritages humains.
Il y a, si vous me le permettez, Anne, vous savez que j'aime bien lire des extraits de livres à cette émission. Si je présentais une émission musicale, il y aurait beaucoup d'extraits. Alors, je vois pas pourquoi on ferait pas la même chose avec des livres. Ouais. Et il y a, entre autres, cet extrait que j'ai trouvé. Ils sont sur un affluent du Zambèze, à l'extrême nord-ouest de la Zambie, dans la région du Mwinilunga. Je ne sais pas dans quel... en tout cas, bon, nous sommes en Afrique, hein, et ils sont dans bateau. Et à un moment donné, le moteur lâche. Et le problème, c'est que sur cette rivière-là, il y a entre autres beaucoup d'hippopotames. Et ce qu'on ignore peut-être, c'est que l'hippopotame est l'animal qui cause le plus de décès en Afrique. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment une catastrophe lorsque vous perdez le pied, lorsque vous êtes en bateau, puis que tout d'un coup, vous ne pouvez plus manœuvrer, et qu'il y a des hippopotames partout à l'horizon. C'est bien pire que les crocodiles, finalement. Alors, il écrit... Évidemment, quand le barreur a tiré sur la cordelette du lanceur, le moteur n'a pas démarré. Donc, hein, il essaie de redémarrer le moteur. Au début, nous avons trouvé ça drôle, mais On distinguait déjà la tête des hippopotames en aval. Nous n'avions aucune chance de réussir à passer au large en utilisant les avirons. Et si le bateau arrivait au milieu d'eux, ce serait fini. Ils le feraient chavirer illico et nous tueraient proprement en nous coupant en deux d'un coup de leur mâchoire géante. Un étrange silence est descendu pendant que le barreur, qui était celui parmi nous qui connaissait le mieux le bateau, tirait fébrilement sur la ficelle. Il n'y avait rien à dire. Nous savions tous ce qui arriverait s'il ne réussissait pas dans les minutes à venir. Se jeter à l'eau et tenter de gagner la rive à la nage, ce n'était pas non plus une bonne idée, parce que le fleuve était infesté de crocodiles. Nous serions engloutis et broyés bien avant d'atteindre le rivage. Par bonheur, le moteur a fini par redémarrer. Nous avons eu le temps de virer et de passer au large. Ce soir-là, au campement, nous étions plus silencieux que d'habitude. Le feu crépitait, les flammes dansaient sur nos visages. Et il y a un passage un petit peu plus loin où il se retrouve 20 ans plus tard. Tous les gens qui étaient dans ce bateau. Et il y en a encore qui croient que le moteur n'aurait jamais dû redémarrer parce que les bougies étaient noyées. Donc, c'est grâce à Dieu si le bateau a finalement... si le moteur est reparti. Et il y en a d'autres comme Mankell qui dit que Dieu n'a vraiment rien à voir là-dedans. Que bon, ben voilà, c'est... En tout cas, c'est... Ouais. Mais je trouve que c'est bien significatif de tout ce qui a pu arriver à Mankell qui a frôlé la mort finalement à plusieurs reprises dans le cadre de ses... Ouais. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit sur l'Afrique est fantastique. J'en ai lu quelques-uns qui sont d'ailleurs... Le titre m'échappe, là, je pense à un enfant, entre autres. Le titre m'échappe, mais ça va me revenir et ouais. je vous en reparlerai un petit peu plus tard.
Est-ce qu'il parle de sa famille là-dedans? Je ne sais pas s'il y en a des enfants ou...
Non, il parle de sa copine Eva, ouais. Il parle de son père, il parle un tout petit peu de sa mère qu'il a perdue très jeune. En fait, elle est partie. Donc, il explique comment il a vécu le départ de sa mère. Il explique comment il a retrouvé sa mère un peu plus tard et comment le passage était difficile. Davantage la relation avec son père. Et puis les moments où il est parti jeune, un peu bohème, à l'âge de 18-19 ans, aller vivre à Paris, puis il était pris dans la rue, puis qu'il ne voulait pas rappeler son père. Mais, alors il comprenait le rôle ingrat de son père à élever un fils seul, il en parle. Ouais. Alors c'est vraiment, comme on dit, toutes sortes de fragments et de flashbacks sur tout ce qu'il a vécu.
D'autant plus touchant, écrit un lecteur, que finalement, le livre est sorti très, très peu après sa mort. Et alors, il est encore d'une présence, il est là encore. Quoi, c'est assez... Anne-Jarry, c'est un plaisir de vous entendre parler d'un livre et j'espère bien qu'on aura l'occasion de vous réentendre assez souvent à cette émission des livres plein les oreilles.
J'attends que votre appel.
Je vous remercie. je ne vous ai même pas présenté, Anne, parce que bon, vous êtes une lectrice, mais juste avant qu'on se quitte quand même, vous êtes aussi professeure à l'université en optométrie.
Oui, en fait, au département d'optométrie.
Au département d'optométrie.
Mais dans un programme qui est tout différent, qui est complémentaire à l'optométrie. Oui. C'est des gens souvent qui ont des bacs en travail social, en psycho, en psychoéducation, qui viennent faire une spécialisation pour intervenir auprès des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, les étudiants viennent apprendre les nouvelles technologies, le braille, l'informatique adaptée sur tous ces angles. Les loupes et les appareils de grossissement pour aider à lire encore avec ses yeux ou passer au braille. Et donc, mon sort, entre guillemets, j'ai une déficience visuelle, bon, malheureusement que j'ai acquis à l'âge de 24 ans, mais c'est devenu aussi mon métier et ma passion pour comprendre comment le cerveau se réorganise pour aider les gens à mieux vivre avec une déficience visuelle.
Il faut qu'on en reparle de ça. Oh là là, il faut qu'on vous réinvite, Anne, parce que vous êtes quelqu'un de précieux. Merci beaucoup et bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Anne. Ne vous gênez pas, là, vous savez, on est en famille, on est entre nous.
Non, c'est bon, je reste tout oui.
Mais oui, mais je vous en prie, mais on sera très, 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 très heureux de vous garder avec nous. Et n'hésitez pas à intervenir auprès de Pierre, si vous le désirez. Pierre Sanson, je me tourne vers vous et vers cette... La Maison des Pluies, que je suis en train de dévorer littéralement. Il m'en reste encore quelques pages.
Il y a beaucoup de post-it.
Oui. Général, vous avez remarqué, je prends quelques notes.
C'est multicolore même.
Bon, La Maison des Pluies, c'est le titre. Pierre Sanson, très rapidement, on apprend que La Maison des Pluies, finalement, ça veut dire nuage dans une langue.
Ksun,
c'est ça, qui est une langue africaine. Que ce linguiste... Mais voilà, c'est ça, parce qu'il est question d'un linguiste... Benjamin, qu'on va suivre, qui a voyagé de par le monde parce qu'il est allé à la recherche de ces vieilles langues et, ou de ces langues encore existantes
ou
en voie de disparition. Et là, maintenant, il enseigne.
Oui, il est revenu, il est rentré au bercail pour enseigner.
C'est ça.
Ouais. Et bon, il n'est pas fait pour ça, vraiment. C'est un peu, pour lui, c'est un mal, pour un peut-être bien. Mais là, je ne veux pas vous voler le micro.
Non, allez-y. Mais oui, voler,
Il apprend, lui, ce n'est pas un cancer qu'il a, mais c'est... J'allais dire, c'est pire encore. C'est un fils.
C'est pire.
Non, je fais des blagues, mais il apprend qu'il aurait un fils. Il ignorait qu'il aurait eu un fils qui est à sa recherche, mais pas à sa recherche à lui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rencontrer son père. Il veut revivre les épisodes de la vie de son père, rencontrer les gens qui ont connu donc notre héros, Benjamin, sa mère, ses amis et tout ça, et refaire l'itinéraire de la vie de son père. Donc, notre Benjamin n'a pas le choix. S'il veut rattraper son fils, il doit, comme le petit Pousset un peu,
faire le même chemin
que ce garçon, et il n'est pas d'accord avec ce qu'il découvre. Il dit « ce n'est pas ça ma vie ». Et que son faux fils ou son vrai fils, il ne sait pas, aura une mauvaise idée de la vie de son père. C'est une vie, ça ne se résume pas à des anecdotes. Mais c'est un peu aussi un parallèle avec les langues. C'est-à-dire qu'on ne possède pas sa langue et on ne possède pas sa vie non plus.
C'est
toujours entre les mains ou de quelqu'un d'autre. C'est sujet à interprétation.
Donc, ou entre les mots de quelqu'un d'autre.
Oui. Chaque mot peut avoir un sens... différent selon qu'il est...
Alors, la langue, parce que ça, c'est quand même essentiel. Il y a une phrase en page 16, « Perdre une langue, c'est tamiser la lumière de l'esprit ». C'est comme ça qu'il ouvre un cours, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais plus combien de langues dans le monde actuellement. J'ai vu dernièrement 30 000 langues dans le monde, mais il s'en perd supposément 1000 par année. Chaque année, 1000 langues disparaissent. Donc, à chaque fois qu'une langue disparaît, c'est une science ou un savoir qui est perdu. Alors, je donne par exemple, là, je n'ai pas les exemples exacts, l'exemple du poisson, par exemple, ce n'est pas mahi-mahi, mais un poisson à Hawaï, en anglais, il l'appelle poisson brigadier ou je ne sais pas, et en hawaïen, c'est zahi-zahi, disons. Alors, zahi-zahi, ça veut dire qu'il nage en zigzag. Alors, qui a le plus de chances d'attraper le poisson? Celui qui appelle son poisson grenadier parce qu'il est très coloré, ou celui qui l'appelle qui nage en zigzag? Bien, c'est sûr que c'est celui qui connaît le poisson. Mais ces langues qui sont perdues, ce poisson-là ne deviendra éventuellement que le poisson brigadier. Donc, toute une science qui est perdue. Là, on parle de poisson, ça peut être plein.
Bien sûr, n'importe quoi, bien sûr. Vous êtes vous-même un passionné de langue?
Oui, bien forcément. Je crois que si on se dit écrivain, il faut être passionné par les langues, en particulier la langue française, que je trouve particulièrement riche.
Alors, écoutez... Alors, il faut quand même que je vous avoue ma grande inculture. Il y a certains mots, une chance que je suis allée voir dans le dictionnaire.
Oh, oui, les gens me font le reproche.
Non, c'est pas un reproche.
Mais moi, je trouve que c'est un.
Mais voyons donc, c'est pas un reproche, c'est un plus.
Oui, mais les gens sont très crispés. Hein, quand on lit, souvent, quand ils prennent, ils lisent un livre. Oh mon Dieu, je dois comprendre. Puis là, il faut aller dans le dictionnaire.
Mais
moi, je trouve que c'est un jeu.
Mais moi aussi. Oh, alors, je vais poser la question à Anne Jarry.
Oui.
Anjari, c'est un adjectif. Irréfragable, qu'est-ce que ça veut dire?
Irréfragable.
Eh bien, sentez-vous bien, moi je ne savais pas du tout, mais j'adore. Et ça, il y en a, mais non, pas tant que ça, ce n'est pas vrai. Mais irréfragable, eh bien c'est une preuve qu'on ne peut récuser.
Voilà.
En gros.
J'allais dire quelque chose de délicieux.
Eh bien, c'est quelque chose d'irréfutable.
Oui,
en fait,
oui,
hein, on pourrait.
Une preuve irréfragable.
Voilà.
Oui. Mais bon. Je ne connaissais pas le mot, mais il voilà. est beau. Et puis, on peut s'amuser.
Mais j'en ai un autre encore plus beau.
Oui.
Oh, que je l'aime celui-ci. Amphigourie.
Amphigourie. Est-ce qu'on me demande encore ce
alors,
que je
alors, ça peut être un poisson, ça peut être un oiseau. Non, là, je vous. Alors, amphigourie, c'est un langage obscur, embrouillé et peu intelligible. Quel beau mot. A-M-P-H-I-G-O-U-R-I. Merci beaucoup, Pierre Samson, parce que vraiment. Bon, allez, les personnages. Parce que vous êtes, vous êtes un portraitiste.
Ah, je sais pas, oui.
Ah oh, là là, c'est incroyable.
Oh, je veux seulement que vous me fassiez des compliments.
Non, c'est pas ça. Mais attends, on les voit, mais c'est même pas qu'on les voit, on les sent aussi. Parce que. Non, mais je pense au personnage de Michel, par exemple. La première fois qu'on fait sa connaissance à la grande bibliothèque.
À la grande bibliothèque qui lit du Coelho.
Que vous avez l'air d'adorer. C'est un auteur que vous... Oh là, mon Dieu!
Non, parce que c'est pas
vous...
mon genre.
Non, c'est ça. Mais puis quand vous dites quelque chose dans ce livre-là, vous le dites. Hein, vous êtes absolument...
Mais je mets pas des gants, moi.
Non, sans concession. Pour la grande bibliothèque.
Ouais.
Oh là là, vous dites des choses sur la grande bibliothèque.
La bibliothèque explosive.
Ah oui, attendez, ça c'est page 45. Il faut, attendez, parce qu'il faut que je vous le cite dans le texte. C'est tellement chouette. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il ne se gèle pas les fesses sur ses tombeaux affreux, il les réchauffe dans l'hideuse boîte de Kleenex explosive. You know, darling, la Bibliothèque nationale. Savez-vous comment identifier une architecte de parvenue? C'est celle qui est passée du cuivre au verre trempé, comme on glisse sans s'en rendre compte de l'ambition à la prétention. C'est quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas tendre non plus donc avec Paul Coelho, on vient d'en parler. Oui. Le Petit Prince, non, ça c'est pas
moi,
votre
j'ai jamais aimé Le Petit Prince. On me le faisait lire à l'école, on me le fait lire à la maison, on me faisait lire partout, c'est la sagesse. J'ai toujours détesté ce livre, j'y peux rien.
Non, c'est ça.
J'aime pas ça.
Vous dites que ça vous exaspère avec sa sagesse pour débiles légers. Mais c'est très bien, Pierre. Mais non, mais vous avez tout à fait
j'assume,
le droit.
J'assume, j'y peux rien.
Mais oui.
On peut pas dire que je suis vanille.
Alors, il y a d'autres personnages aussi délicieux, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé. Odile, le Doharé,
qui est cette femme.
Ça, c'est votre vrai professeur.
C'est ma vraie professeur. Wow. Moi, je viens de Schlagan. Hein, je viens d'un quartier populaire, pauvre, etc. Et je sais pas combien de temps j'ai, là. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un à la piscine qui me regardait d'une drôle de façon. Je sais pas ce qu'il veut. Et il vient me voir, il me dit Pierre Samson. Je dis oui, je venais de publier un roman ou deux. Alors il me dit Pierre Samson. Je fais oui. Alors j'étais comme convaincu que quelqu'un m'avait reconnu finalement. Et j'ai dit oui, c'est moi. Il dit ah, tu te rappelles de moi? C'est Jocelyn, je crois. Il fait comme non, alors mon égo fait pouf, et ça a dégonflé très rapidement. Il dit, on est allé à l'école ensemble en première année, on avait 6 ans. Il dit, t'as pas changé. Ben, je dis, bah, déjà, un problème, mais j'ai reconnu ta façon de marcher.
Ah, mais c'est quelque chose, hein?
Je dis, tu te rappelles de moi? Il dit, oui. Il dit, la professeure nous avait demandé à l'école, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez être grand? On était à Hochelaga, et les gens disaient, pompier, policier, vétérinaire. Et toi, tu t'étais élevé, tu avais dit, je vais être écrivain.
Ah, ben.
Et tout le monde s'était mis à rire, parce que Hochelaga. Et ça, c'était. Puis quelques années plus tard, ben, naturellement, c'est une chose que je taisais, que je voulais être un écrivain parce qu'il ne fallait pas l'admettre. Et en 7e année, à peu près, Mme Ledoiré avait été ma professeure. Et c'est elle qui m'avait pris sous son aile, et qui m'avait encouragé à écrire, et qui m'avait dit « Oui, c'était bon ce que je faisais. » Oui. Vraiment. Donc, j'ai le personnage, j'ai donné son nom.
Pierre Samson, il y a aussi ce couple. Ce couple gay, cette espèce de Laurel et Hardy. C'est
Tito
extra. Voilà, Tito. Big Daddy. Voilà, Big Daddy et Tito. Fantastique. Ils sont ces deux-là. Attendez, est-ce que j'ai une description quelque part?
Ils sont venimeux.
Mais... Ah oui, ça pourrait être venimeux. Ils sont venimeux.
Entre eux, oui.
mais alors, c'est pareil. Ils sont incroyables. Et alors, il y a un personnage très central. C'est quand même Montréal et certains quartiers aussi.
Ah, ben oui.
Parce que, justement, le centre-sud. la rue Sainte-Catherine, la mi-matinale. Il y a même Mado à un moment donné qui sert à un drink. En tout cas, on est dans du palpable aussi.
Ben oui, parce que j'aime Montréal. Moi, je viens de Montréal.
Mais oui, c'est sûr. Et puis, mais écoute, ça, je me suis dit, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas au sujet de l'écriture? Je me suis dit, j'ai l'impression parfois, ma San Antonio, un tel lot ou sur l'acide. Est-ce que ça vous fait de la peine? Ah bon, ça va.
Non, mais
vous savez pourquoi? Regardez, par exemple, en page 64. Voyez-vous, il me servent à ça tous mes post-it. Benjamin se retourne, sourcils arqués, narines pincées, lèvres ramassées en une framboise. Il m'a donné 2 piastres. Lui fait la gorgone Inca à Nattes. Il me semble que ça, j'aurais lu ça dans du Sana.
Moi, j'aime San Antonio pour la fête. Qu'il fait à la langue. Oui. Donc, il s'amuse. C'est sûr qu'on peut... il est très truculent. On peut le trouver irritant pour certaines positions, naturellement, politiquement.
Mais
il y a une fête de la langue. C'est comme on peut aimer Céline, par exemple. On peut détester tout à fait
qui il était. Bien sûr, donc, exactement. Je ne voudrais pas révéler, mais tout au long de ce livre, on va rencontrer encore des personnages absolument merveilleux. Bon, il y a ce premier amour, Béatrice, par exemple. Très chouette personnage aussi, magnifique personnage, qui sera peut-être la maman. En tout cas, bon, je ne vous dis pas plus parce que je voudrais vraiment que vous appréciez ce livre, La Maison des Pluies, écrit par Pierre Sanson. Et Pierre, il ne nous reste plus que 2 petites minutes. Je voudrais vous dire que nous avons aussi Catastrophe qui est disponible en livre audio adapté. Voudriez-vous en 2 petites minutes nous en parler de ces catastrophes-là? Parce qu'elles sont au pluriel.
Non, je vais dire que la maison des Pluies a gagné le Grand Prix du livre de Montréal.
Je ne l'ai pas dit.
C'est pas grave. Je suis le meilleur pour faire ma promo, ne vous inquiétez pas.
Ça y est, je suis renvoyé.
Alors que Catastrophe a gagné le prix des collégiens.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, je n'ai pas gagné tous les prix, mais...
Une minute et demie, c'est ça que ça veut dire, le petit papier. Okay.
Donc, Catastrophe, c'est l'histoire d'un garçon qui travaille pour une revue littéraire obscure, que personne ne lit, mais qui vit grâce aux subventions et tout ça. Et à un moment donné, il s'emmerde avec son travail parce qu'il doit parler des romans oubliés. Alors, il décide de parler d'un roman qui n'existe pas, en se disant, de toute façon, personne ne lit cette chronique, ça va passer complètement dans le vide, et qu'est-ce qui se passe? Ben non, quelqu'un dit, j'aimerais lire ce livre, où est-il? C'est vraiment intéressant. Et là, de page en page, les morts s'accumulent, parce que, accidentellement et tout ça. Et donc, c'est ça l'histoire, en fin de compte.
C'est génial, cette
exploration
histoire-là.
Ça me donne
une bonne idée. Tiens, un jour, je vais parler d'un livre qui n'existe pas, puis je vais dire que j'ai emprunté l'idée à Pierre Sanson. On verra bien ce qui va arriver. Merci beaucoup de vous être déplacé. Mais je vous en prie, La Maison des Pluies, ne manquez pas ce livre-là. C'est vraiment tellement bien écrit. Merci infiniment, Pierre. Et du coup, profitez-en peut-être pour vous lancer dans Catastrophe. Ces 2 livres sont disponibles, comme je vous le disais, en audio adapté. N'oublions pas que La Maison des Pluies a reçu le Grand Prix du Livre de Montréal.
Merci, je
ne manquerai pas de le dire une deuxième fois pour rattraper ma bourde. Salut Pierre.
Salut.
Des livres pleins les oreilles, c'est la suite. Et nous la retrouvons, avec vraiment un très, très grand plaisir, parce que c'est une habituée quand même maintenant de cette émission-là, on peut le dire ainsi. Du moins, je souhaiterais peut-être qu'elle le fût encore un peu plus, si elle le désire. C'est Nicole Châtelain. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Je suis vraiment ravie de vous retrouver, Nicole Châtelain, vous qui êtes depuis plusieurs années maintenant bénévole ici, chez Vues et Voix. On vous voit régulièrement, au moins une fois, si ce n'est 2, même parfois 3 fois par semaine. Ça vous arrive parfois?
Une
non,
seule.
Une seule.
Ouais. De la mesure en tout.
Ah, de la mesure en tout, dit-elle. Et Nicole, vous nous arrivez aujourd'hui avec un livre qui est évidemment disponible via le SQLA, et je vous laisse le soin de le présenter, même si ce n'est pas vous qui l'avez lu, vous avez eu très envie de nous en parler.
Oui, j'ai été d'abord frappée par ce livre, par la première de couverture, alors que j'étais dans un aéroport, que j'attendais l'avion, et j'ai vu une image qui me rappelle le peu de calligraphie que je fais. Ça m'a vraiment frappée, et j'ai vu Anna Gavalda, que je n'avais jamais lue, fendre l'armure. Exactement ce qu'il y a sur la page couverture, un coup d'épée, pas dans l'eau, mais dans une armure. Et quelle est donc cette armure? C'est ce que l'on découvre au fur et à mesure des 7 nouvelles de ce livre, dont certaines sont tristes à mourir et d'autres touchantes, vraiment touchantes. Si par hasard quelqu'un, j'espère que ça va se produire, veut bien entendre ce livre qui a été enregistré, je conseille à toute personne qui va soit lire avec ses yeux ou avec ses oreilles de ne pas commencer par la première nouvelle.
Ah tiens donc,
revenir
pourquoi
après. Bon, d'abord, c'est une jeune fille, l'histoire d'une jeune femme qui court un peu après l'amour, qui est toujours déçue, mais la langue est extrêmement difficile. J'ai une amie qui m'a dit, mais si tu l'as enregistré, comment t'as fait pour dire ça? J'ai dit, comme autre chose. Mais je conseille quand même oui, d'aller aux autres nouvelles.
D'accord. Ouais.
Donc, quelques-unes, en tout, de toute manière, il s'agit de gens qui soit ont eu des malheurs, des décès, soit font face à, par exemple, un divorce, oui, ou des choses du genre. Oui. Mais décès plus encore. Mm-hmm. Décès chez un de ces personnages, le monsieur qui se trouve avoir perdu son fils, qui était malade, et en même temps presque sa femme qui est devenue muette. Et ce monsieur, il trouve par hasard une nuit, il est routier, il trouve par hasard une nuit un chien qui le regarde en plein dans les yeux. Lui, il est dans son camion, évidemment. Mais le chien le regarde en plein dans les yeux. Il revient en arrière. Il laisse même son camion au milieu de la route. C'est dangereux, n'est-ce pas? Il va chercher le chien. Et ce chien lui permet ensuite de faire son deuil de son fils. Et à la mort du chien, tout d'un coup, l'épouse aussi retrouve la parole.
Oh.
Et il se retrouve. Donc ça, vraiment, celui-là est vraiment très bien.
Oui, j'ai le petit frisson, là. J'ai le petit frisson.
Et par ailleurs, il y a une autre nouvelle que j'avais oubliée avant de relire le livre très rapidement. Le fantassin. Le fantassin, où en fait, c'est une histoire de chaussures. Des voisins qui portent des chaussures d'aussi belle qualité, l'un et l'autre étant pris dans son armure, et grâce aux chaussures, ils font connaissance et l'un des deux aide énormément le premier en l'invitant chez lui, en lui offrant de la bonne nourriture, de bons films. C'est super, super agréable lire.
Oui,
et puis, il y a les papas. Il y a les papas qui, dans certains cas, par exemple, le papa de la petite fille qui n'adore que McDonald's, les nuggets de miel, n'est-ce pas? Les nuggets, et puis aussi les arachides avec le caramel sur la glace, la crème glacée, qu'elle n'aime pas. Elle n'aime que le dessus.
Ah oui.
Et le papa, il aime, lui, la bonne chair, les bonnes sauces, mais on comprend qu'il y a divorce, que les parents
bien
sont divorcés.
Sûr.
Mais quand même, donc quand il sort sa fille, il est ému aux larmes, il déteste aller chez McDonald's, mais il y va parce que c'est sa petite princesse qui aime ça et il veut lui faire plaisir.
Oh.
Et l'autre papa qui, lui, encore un truc qui... Vraiment, là, ça touche, ça vous prend au cœur. L'autre papa qui, lui, est à son travail, il est ingénieur, il fait des expertises pour toutes sortes de petits problèmes et tout d'un coup, il doit se présenter à l'école parce que son fils de 6 ans, qui a été un cadeau pour eux tous, ils avaient déjà 2 grands-fils, puis ils ont eu celui-là après, ce fils de 6 ans a fait une grosse bêtise. Grosse bêtise. Donc, il va à l'école. Il est reçu vraiment comme un chien dans un magasin de porcelaine, n'est-ce pas? Il y va. La directrice veut à tout prix que l'enfant dise ce qu'il a fait. Il finit par le dire, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Avec son compas, il a percé la roue du fauteuil roulant de l'autre petit garçon.
Oui, ça, non, ça ne se fait pas, ça.
Non,
non
ça
pas
ne
du
se
tout.
Fait pas.
Non.
Mais, le papa étant oui. un ingénieur, chargé toujours de voir quelle est la faille dans le mur, ouais. que s'est-il passé, le fils dit que oui, il l'a fait, le papa trouve une solution, mm-hmm. il propose de montrer aux deux gamins comment on peut coller
une rustine
sur la
chambre à air.
Donc il invite les parents qui étaient tout tendus, ouais. les amène. Mais alors là, la grande découverte. Il a trois garçons, ce monsieur. Et tous les garçons, tous les enfants, quand on les prend dans nos bras, qu'est-ce qu'ils font hein? Si on les prend vraiment dans nos bras, ils portent leurs jambes autour de la taille ouais. de la personne, de l'adulte qui les prend.
Oh,
mais dans ce cas-ci, ce n'est pas possible, puisque le gamin, lui, il n'a pas de jambes. Ah. Ses jambes, elles sont là, mais elles ne valent rien, absolument ouais. rien. Bon, alors, ils deviennent tous amis, et le soir à la maison, parce qu'il y a une fillette qui est là, et qui a entendu des histoires à l'école.
Mm-hmm.
Alors, elle raconte ce qui s'est passé, qui a eu donc, avec le compas,
oui.
un truc très méchant qui a été mm-hmm. fait. Et là, les grands disent, mais pourquoi? Mais que s'est-il passé? Que mm-hmm. s'est-il mm-hmm. passé? Avec les pleurs, avec le hoquetement, mm-hmm. le petit finit par dire que l'autre l'a trompé. Il lui a menti. Je ne pourrais pas répéter le nom de la carte, mais c'est quand même... Il s'attendait à avoir un Pokémon qui s'appelle je ne
oui,
sais comment,
d'accord.
et l'autre l'a trompé en lui donnant un truc de rien du tout.
Et c'est pour ça qu'il s'est vengé.
C'est pour ça qu'il s'est vengé.
Ben voilà.
Bon. Et le père et tout le monde est très ému.
Ben oui.
Alors je peux vous dire que...
Bon.
Dans ce livre...
Il ne reste plus qu'une minute, tout à
oui.
l'heure. Oui, déjà.
Eh bien, alors,
hein?
J'avais
alors,
choisi...
Est-ce qu'on y va avec un petit extrait?
Je veux bien, mais juste là... Alors là, parlant de oui. personnes touchées, cet extrait, je l'ai choisi
oui.
parce que ça me rappelle une grosse douleur.
Oh, OK.
Donc, ce n'est pas la tendresse des parents.
Non.
C'est quelque chose d'autre.
D'accord.
C'est dans une nouvelle
d'accord.
où la jeune maman est veuve, elle a deux enfants, son mari avait 20 ans de plus qu'elle... Il est mort dans un accident de voiture, sans doute qu'il s'est tué parce qu'il était malade. Et elle lui en a voulu. Il m'a longtemps semblé que loin de nous épargner sa déchéance, il nous l'imposait pour toujours à elle et à ses deux enfants. Je n'ai pas convié ses enfants du premier mariage à son enterrement, ni ses parents d'ailleurs. Je l'ai accompagné seule au crématorium du Père Lachaise et j'ai repris le métro dans l'autre sens en cachant sous mon pull une urne encore tiède. Et ma réaction quand j'ai lu ça, ça m'a fait mal parce qu'on a vécu la même chose.
Ah oui.
Quel égoïsme, quelle cruauté envers ceux qui aimaient cet homme.
Ouh.
Mm-hmm. N'est-ce pas? Alors, je recommande
oui.
cette Anna Gavalda que je n'avais encore jamais lu. N'oubliez surtout pas, si vous pouvez le voir, de voir la page couverture.
Oui.
C'est très beau, c'est très simple.
Oui.
C'est
comme une faille, quoi. Hein,
exactement. Hein, c'est le coup d'épée.
Faille.
C'est le coup
c'est
d'épée.
C'est ça.
Et c'est publié chez Le Dilettante.
Voilà. Et puis, je voudrais dire qu'il y a plusieurs titres hein, d'Anna Gavalda hein, qui se retrouvent évidemment chez au SQLA ou via aussi CAEB et notamment Ensemble, c'est tout qui a été un énorme succès d'Anna Gavalda.
Que je n'ai pas lu encore.
Eh bien, écoutez, vous allez vous régaler. Il y a aussi La Consolante, L'Échappée Belle et puis La Vie en Mieux aussi qui vaut le coup. En tout cas, c'est une belle auteure qui nous a été formidablement présentée comme chaque fois par Nicole Châtelain, que je remercie infiniment. Nicole, je vous laisse aller parce que je pense que vous êtes, ma foi, très pressée. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue. Et comme on le fait à chaque émission, c'est le temps maintenant de revenir sur le livre dont nous avons parlé en première partie avec son auteur, autrement dit Pierre Sanson, qui est venu nous parler de La Maison des Pluies. J'ai choisi comme extrait aujourd'hui le tout début du livre. Alors on retrouve on fait connaissance avec ce linguiste qui ne voyage plus à la recherche de langues différentes, qu'elles existent ou qu'elles n'existent plus, mais qui est désormais dans une classe où il apprend, donc il parle de son métier de linguiste à une classe d'étudiants. Ainsi, poursuit-il, la langue est la représentation sensorielle d'un consensus, ou, mieux dit, d'un code assis sur des millénaires d'expérimentation et de cueillette de données empiriques. La linguistique est une science cognitive, avec pour objet un matériau en évolution incessante. Avant que vous nous protestiez véhémentement, j'insiste sur le vecteur sensoriel dans l'émission et la réception d'un tel code. Ainsi, certaines collectivités font appel à l'olfaction et à des stimulus tactiles, et la plupart ont recours à une gestuelle, au champ sémantique très étendu. Pensons à ce que nous désignons erronément par « langage », le système de communication des malentendants, ou, si vous les préférez, les gesticulations truculentes des coachs et des lanceurs de baseball. Comme nous le verrons, d'autres groupes ethniques, culturels, voire criminels, ne sauraient se passer d'une syntaxe gestique allant du complexe, par exemple la chironomie propre au chef d'orchestre, au simplicisme. Et à ce moment précis, Benjamin dresse un majeur vers l'hémicycle tapissé de 70 et quelques visages, pour la bonne part juvéniles et boudeurs, et il peut ainsi mesurer le degré de désintéressement préliminaire de la meute de chasseurs de crédits universitaires écrasés devant lui. Les rires venus exclusivement du fin fond de l'auditorium, qu'il a baptisé pour lui-même « l'ourlet des nuls », lui promettant un trimestre éprouvant pendant lequel lui-même devra batailler contre l'ennui et repousser le détachement propre au saniazin dans lequel il pourrait être tenté de se réfugier. Voilà pour ce début de livre « La Maison des Pluies », signé Pierre Sanson. Je suis un petit peu en retard, oui, c'est vrai, sur les nouvelles, mais ça faisait longtemps et puis les sujets ne s'y prêtaient pas dans l'émission, mais que je voulais faire un petit retour sur le départ de Régent Ducharme. C'est quand même un gros morceau qui est parti, si vous me permettez cette expression-là. Et donc, je voulais revenir sur notamment quelques livres que nous avons de Régent Ducharme qui ont été lus et qui sont en format audio adapté via SQLA et CAEB. D'abord, les livres disponibles. Dévadé, Gros mots, L'hiver de force, L'océantume, Va savoir, et puis, bien évidemment, La vallée des avalés. Un petit extrait de ce qu'écrivait Chantal Guy dans la presse peu après sa mort. Régent Ducharme. Dans l'histoire de la littérature québécoise, toujours si jeune et de ce fait si pleine de promesses encore, on peut compter sur les doigts d'une main les monstres sacrés. Et Régent Ducharme en faisait partie. Il a appartenu à sa façon unique à cette cohorte d'écrivains qui a frappé de plein fouet les lettres dans les années 60. Marie-Claire Blais, Hubert Aquin, Jacques Ferron, Anne Hébert, Michel Tremblay, Victor Lévy-Beaulieu ou Jean Basile. En fait, le seul autre mythe auquel on peut comparer Ducharme au Québec est celui d'Émile Néligan, qu'il évoque d'ailleurs abondamment dans ses romans, ses personnages citant souvent le poète tragique, ou encore Salinger aux États-Unis, avec qui il partage la même détestation de la vie publique. Tout commence, nous rappelle Chantal Guy, en 1966, lors de la parution chez Gallimard de La vallée des avalés, devenu rapidement un classique lu par des générations de jeunes Québécois. Nous n'avons rien lu de plus poétique, de plus imprévu, de plus original depuis de longues années, avait écrit Alain Bosquet dans Le Monde, au sujet de ce premier roman qui s'était retrouvé en lice pour le prix Goncourt. Bérénice Heinberg entre dans la littérature par ces mots. « Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. » Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Cette passion de Bérénice pour sa mère, on la retrouvera chez l'inoubliable Manon, interprétée par Charlotte Laurier du film « Les bons débarras » de Francis Mankiewicz, d'après un scénario de Ducharme, considéré comme l'un des plus grands films de notre cinématographie. Et puis, ceux qui l'ont vu se souviennent de ces mots d'amour déchirants de la fillette à sa mère. « On sortirait ensemble, on passerait à 100 000 à l'heure, puis on aurait un accident, un gros, on perdrait beaucoup de sang, ton sang se mélangerait avec le mien dans l'asphalte. » Puis, il pousserait une fleur dans l'asphalte, pas arrachable, pas cassable, pas écrapoutissable. T'aimerais pas ça, toi ? On tentera, nous dit toujours Madame Guy, de percer le mystère du charme, notamment dans une belle enquête de l'actualité en l'an 2000. Encore plus mystérieux, on n'y sera jamais parvenu. Fidèle à ses convictions, il va rester caché et son entourage se sera montré tout au long de sa vie très respectueux de cette intimité qu'il avait désiré. À part un photographe du Nouvelliste dans les années 60, il n'a pas été paparazzité. C'est un mot qui a été mis ici entre guillemets. Personne n'a voulu commettre l'odieux de le piéger, même si son adresse était connue de plusieurs. Ce respect généralisé est très particulier, comme si Régent Ducharme, visionnaire dans son attitude, incarnait à lui seul l'antithèse absolue de notre époque selfie, voire son ennemi juré. Ainsi donc, la mort l'aura avalé, un an après celle de sa complice et protectrice, Claire Richard. Pour tous ses lecteurs, conclut Madame Guy, Régent Ducharme ne peut être mort puisqu'il n'a jamais existé ailleurs que dans ses livres, qu'on n'a qu'à ouvrir pour le retrouver, intact et sans âge. Un monument de mots à qui on ne pourrait faire plus grande insulte que de lui ériger une statue et à qui on a envie de dire adieu, Monsieur Ducharme. C'est un honneur de ne pas vous avoir rencontré. Nous avons ici quelques réactions après sa mort, celle de Robert Charlebois, par exemple, qui a écrit ces mots sur Facebook. « Le silence est d'or. D'or, Régent. D'or, depuis que ta plume s'est envolée. On n'a plus mot à piétiner. Dans la vallée des avalés, ta plume d'argent va continuer à réchauffer l'hiver de force des enfants fantômes. Tendresse et amitié. Robert. » Monique Proulx, écrivaine, a écrit « Pour moi, il est absolument immortel. Je ne connaissais pas sa personne, mais je continue de croire qu'il est toujours vivant. L'influence qu'il a eue, la magie de son art, une telle qualité, d'une telle ampleur, pour moi, il a été vraiment l'auteur qui a fait que j'ai écrit. » Larry Tremblay, romancier et dramaturge, a dit « J'ai toujours considéré Régent Ducharme comme un des plus grands auteurs du XXe siècle. Il a un rapport aux mots qui me fascine. » Il avait une si grande maîtrise de la langue, c'est comme s'il avait joué de tous les instruments d'un orchestre à lui tout seul. Et enfin, Michel Tremblay a écrit sur Facebook « Un génie nous quitte, une perte inestimable, Régent Ducharme était le plus grand. Immense tristesse. » Et puis, étrange hasard, nous rappelle-t-on dans la plupart des journaux, là j'ai trouvé ça encore dans la presse, un nouveau livre de Régent Ducharme devait sortir à la fin du mois de septembre aux éditions du Passage, sortie qui sera d'ailleurs devancée au 25 août. Cet ouvrage, Le Lactume, on pense déjà à l'Océantume qui existait, est un recueil d'environ 200 dessins faits par Ducharme en 1966 et tous accompagnés de courtes légendes écrites de sa main. Il avait retrouvé ses dessins il y a quelques années, mais c'est seulement maintenant qu'il avait accepté de les publier. Sa seule exigence était que ce soit moi qui présente le livre. Mais pourquoi a-t-il enfin accepté de le publier ? Le livre est dédié à Claire. Je crois qu'il voulait lui rendre hommage, de dire Rolf Puls, ce qui est celui qui s'exprime là, Puls qui a eu le livre entre les mains vendredi soir, tout frais sorti des presses, qui est Monsieur Puls, le directeur de chez Gallimard. Régent n'a pas vu le produit fini, mais il avait travaillé dessus et il avait absolument tout approuvé. Faut savoir qu'il y a une semaine ou deux, dans le cadre du Festival international de la littérature, il y a eu une exposition et une mise en lecture qui ont eu lieu autour du Lactume, dans le cadre, je vous le disais, du fil. La semaine prochaine, on ne sera plus, plus du tout dans l'univers d'Henning Mankell, de Pierre Sanson ou encore de Régent du Charme. On va faire un spécial jeunesse et adolescent et un spécial aussi éditeur. On va se poser la question la semaine prochaine. Être éditeur en 2017, ça veut dire quoi? Et je vais poser la question à Michel Tisser, qui a repris la maison d'édition Pierre Tisser. Également la semaine prochaine, puisqu'on parle de littérature jeunesse et des éditions Pierre Tisser, on va rencontrer José Ouimet, qui est une auteure de livres jeunesse, dont un livre qui m'a particulièrement intéressée, qui s'appelle « La dernière nuit de l'Empress of Ireland ». Qui se passe ce livre le 28 mai 1914. On est à Québec. Jonathan a 14 ans et sa petite sœur Gracie s'embarque avec leurs parents à bord de ce bateau, l'Empress of Ireland, à destination de Liverpool. Ils vont rendre visite à leurs grands-parents. Et durant les premières heures à bord, en compagnie d'un jeune steward, les jeunes visitent l'impressionnant paquebot, depuis les cuisines jusqu'à l'enfer des machines. Et alors que le navire vogue dans les brumes nocturnes de l'estuaire du Saint-Laurent, il y a un autre gros bateau, le Storstad, qui fonce sur l'Empress of Ireland et lui déchire le flanc. C'est le naufrage. 14 horribles minutes qui suffisent pour que le navire coule à pic et en tout, 1012 passagers et membres d'équipage qui périssent. Et sur les 138 enfants à bord, seulement 4 survivent, dont Gracie et Michael, qui sont du nombre. Un accident bête, un naufrage rapide, quasi silence de la presse, trop accaparé par une autre tragédie, le début de la Première Guerre mondiale. Alors cet auteur brosse un tableau dramatique de l'événement en imaginant l'aventure de ces jeunes héros. Il en sera question la semaine prochaine. Et puis je vais aussi recevoir pour la première fois une jeune lectrice bénévole. On dit toujours que ce sont des gens à la retraite qui font la lecture. Eh bien, il n'y a pas que des gens à la retraite. Elle est toute jeune, elle a à peine 20 ans. Elle s'appelle Christelle Quintin et elle a beaucoup lu déjà de livres pour les adolescents. Elle va venir nous en parler. Alors, quelques nouveautés en rafale pour finir cette émission. Allons-y avec celui qui revient de Can Hang, H-A-N-G. Nous sommes en mai 80. Une junte militaire a pris le pouvoir en Corée du Sud quelques mois plus tôt. Après une spectaculaire manifestation d'opposants à Séoul, la ville de Gwangju se mobilise à son tour. Face à la répression, elle se soulève, portée par le mouvement étudiant et syndical pour la démocratie. La répression menée par l'armée est féroce, les civils, la foule, la jeunesse deviennent des cibles. Et dans cette ville ensanglantée, un jeune garçon erre à la recherche de ses camarades. Dans une maison d'édition, une jeune femme travaille sur un texte censuré. Et dans le présent, des rescapés se souviennent et toutes ces âmes tourmentées ne demandent qu'à retrouver la paix. Alors ça s'appelle « Celui qui revient » de Can Hang. L'histoire encore avec « J'étais l'espionne qui aimait Castro » de Marita Lorenz, L-O-R-E-N-Z. C'est un grand destin de femme, de l'Allemagne nazie à l'assassinat de John F. Kennedy. Peu de gens peuvent dire que les événements majeurs de l'histoire du XXe siècle se sont déroulés sous leurs yeux. Eh bien, Yona Lorenz fait partie de cela. Née en Allemagne en 1939, à la veille de l'invasion de la Pologne, d'un père allemand et d'une mère américaine, elle fut internée enfant au camp de concentration de Bergen-Belsen. Et peu après la fin de la guerre, à l'âge de 7 ans, elle sera victime d'un viol. Dans les années qui suivent, elle embarque souvent avec son père, commandant de paquebot. Et c'est là qu'elle arrive à la Havane, elle n'a alors que 20 ans, et qu'elle tombe sur un groupe de barboudos, comme on les appelle, commandé par un certain Fidel Castro, qui va tomber amoureux fou d'elle. Et si vous pensez que là va s'arrêter sa vie, eh bien vous avez bien tort. Une vraie vie d'aventurière, c'est très bien écrit. « J'étais l'espionne qui aimait Castro » de Marita Lorenz. Tiens, parlons d'amour pour changer un peu avec « Vous aimez ». Aimer, un indicatif, c'est de Caroline Bongrand, B-O-N-G-R-A-N-D. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est une rencontre. Ça se passe dans un restaurant, lors d'un déjeuner professionnel. Objet des critiques continuelles d'un mari insatisfait, la femme, elle, se voit belle dans les yeux de cet homme qui est subjugué par elle et qu'elle adore déjà. Mais pour préserver, croit-il, leurs familles respectives, ils établissent un pacte. Ils ne feront jamais, jamais, jamais l'amour. Seulement, la retenue a l'effet inverse de celui escompté. Si vous voulez entendre parler d'amour, vous aimez de Caroline Bongrand. Et puis, un livre plein d'espoir, rien qu'à connaître son titre, vous allez tout comprendre. Voix d'espérance, voix comme une voix avec un X d'espérance au pluriel, de Léiliane Var et Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir qui s'y connaît en bonheur. Un petit résumé, par ces temps troublés, où trouver matière à espérer? Répondant aux questions de Frédéric Lenoir et Léiliane Var, des artistes, des penseurs, des écrivains, tracent des chemins, où inscrire nos pas, ce sont autant d'invitations. Cultiver l'indignation face à l'injustice avec Stéphane Hessel. Incarner le vivre ensemble dans une unité féconde avec Jean Vanier. Être à l'écoute d'une voix de fin du silence avec Sylvie Germain. Célébrer au-delà des ténèbres la joie avec Magda Hollander-Lafont. Ou suivant les paroles du poète Sallas Tessier, ajouter chacun un peu d'humanité à l'humanité. Ces témoignages ainsi que le parcours exemplaire d'Etty Hillesum, évoqué par Karima Berger, sont porteurs d'une espérance insoupçonnée. Ces entretiens sont issus de l'émission Les Racines du Ciel, diffusée sur France Culture chaque dimanche de 7 à 8 heures. Et Frédéric Lenoir et Léiliane Var y évoquent toutes les formes de spiritualité d'hier et d'aujourd'hui, d'Orient et d'Occident, ancrées ou pas dans une tradition religieuse. Voix d'espérance de Léiliane Var et Frédéric Lenoir. Voilà, ainsi s'achève l'émission. Merci beaucoup Mathieu Tessier de m'avoir accompagné aujourd'hui en régie et merci à mes invités Anne Jarry, Pierre Sanson et Nicole Châtelain. C'était encore une fois un grand plaisir de vous présenter des livres plein les oreilles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce spécial littérature jeunesse. Salut.